France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h21, déjà plus de 8 ans de chaos en Libye depuis la chute de Kadhafi. Deux camps s'affrontent dans des combats meurtriers. Celui reconnu par l'ONU, le gouvernement de Fayez al-Sarraj, et celui du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Une médiation vient d'être tentée à Moscou, mais les deux hommes ne se sont même pas parlé directement et le maréchal Haftar a refusé de signer la trêve. Bonjour François Burga.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. On a donc deux camps, plus tous les pays qui interviennent dans ce conflit, les Turcs, les Russes, les Européens, les Émirats arabes unis et d'autres encore. Pour le dire poliment, c'est un sacré bazar.
Oui, bien sûr, comme toutes ces crises régionales, on pense au Yémen, on pense à la Syrie, un différent qui est interne, lié à cette phase difficile de reconstruction du pouvoir après le départ de Kadhafi, s'est internationalisée. Elle s'est internationalisée par strates successives. C'est d'autant plus complexe que les acteurs n'y ont pas joué, ont eux-mêmes changé de partition. Souvenons-nous que les Français sont ceux qui ont directement participé aux côtés de l'OTAN à la chute du régime de Kadhafi. Eh bien, les Français sont aujourd'hui dans un camp opposé, dans celui de la reconstruction autoritaire, dans celui du camp Haftar. Et puis, est survenue cette percée tout à fait inattendue, puisque deux des acteurs de cette internationalisation qui n'étaient pas du même bord, les Russes et les Turcs, ont soudain décidé de mettre leurs efforts en commun.
Mais ça n'a pas suffi. Mais ça n'a pas suffi, puisque leur médiation a échoué. Pourquoi ça n'a pas marché?
Voilà. Alors, bon, on ne connaît pas en détail l'état d'esprit du maréchal Haftar. Tout au plus, le ministre russe des Affaires étrangères a-t-il dit qu'il avait besoin de temps, du temps de la réflexion. Sur le registre de l'évidence, on peut quand même tirer une première conclusion. Ça veut dire que les termes de l'accord qui lui ont été proposés ne le satisfaisaient pas. Alors, vous me direz, ce n'est pas une découverte, mais ça permet quand même de penser que le président Poutine avait fait en direction du président Erdogan des concessions suffisamment importantes pour que, on va dire, le trône suprême que convoite Haftar lui soit refusé. Alors ça, c'est la première hypothèse, c'est que Haftar voudrait continuer, sans doute sollicité par une partie de ses sponsors, les Émiratis et ceux que vous n'avez pas cités, les Égyptiens qui sont les voisins de la Libye et qui sont extrêmement motivés. Alors, il n'est pas impossible que Haftar veuille tenter sa chance tout seul. On sait de lui que c'est quelqu'un qui est peu enclin au compromis, qui a une très haute idée de lui-même, qui peut être parfois irrationnel. Donc ça, c'est une première hypothèse. La seconde hypothèse, il y en a une autre, c'est que d'autres de ses sponsors, non pas les Émiratis et les Égyptiens, mais cette fois-ci les Européens, y compris la France, aient demandé avec insistance à Haftar de différer tout engagement, de sursoir à tout engagement pour une solution jusqu'au sommet de Berlin, qui
dimanche.
Doit se tenir à la fin de la semaine.
Voilà, sous l'égide de l'ONU cette fois.
Voilà. Et ben pourquoi, évidemment, le dire constitue la réponse. Si une solution est trouvée à Berlin, ça sera sous l'égide des Européens et ça ne sera pas cette victoire diplomatique spectaculaire, extrêmement irritante pour les Occidentaux, puisque ça serait la deuxième, il n'y a pas une victoire diplomatique complète en Syrie, mais la gestion de la crise syrienne échappe majoritairement aux Occidentaux. Alors, cette seconde hypothèse serait que Haftar va différer toute décision de sa part jusqu'au sommet de Berlin pour que les Européens puissent apparaître sur la photo de la réconciliation et donc garder leur crédit, garder leur légitimité pour cette phase qui n'est pas encore là parce qu'il va falloir restaurer le tissu libyen interne et on n'en est pas là, mais disons pour être présent et légitime à l'être lors de la phase de reconstruction.
Et vous y croyez, vous, donc, la réunion de Berlin dimanche a des chances de marcher cette fois ?
Oui, écoutez, il y a des forces qui souffrent en sens inverse. Il est évident que bon, les Russes et les Turcs, qui sont les acteurs militaires majeurs, qui sont devenus, c'est ça, hein, la nouveauté de cette internationalisation, c'est l'apparition en force des Russes par le biais d'une société de mercenaires. qui manie de la technologie de pointe, ce qui permet de sourire quand Poutine dit qu'il n'a rien à voir avec cette société, qui manie de la technologie de défense aérienne de pointe, qui interdit notamment aux drones du camp Sarraj de voler sur toute la région de Tripoli. Donc, les Russes et les Turcs vont tout faire pour garder leur leadership, et donc ils vont faire pression sur leur candidat, enfin disons au moins les Turcs, qui est Sarraj. Donc évidemment cette réunion n'est pas sous les meilleurs auspices, mais il n'est pas interdit de penser, tellement les intérêts des acteurs tous pour une solution en Libye sont maintenant convergents. Hein. Ils ne veulent pas seulement se partager le pétrole ou le gaz libyen dans de meilleures conditions, mais ils n'ont pas intérêt à ce que des espaces de déploiement trop importants soient laissés à Daesh. Et puis les Européens, bien sûr, veulent contrôler les flux migratoires.
Merci beaucoup François Burga, directeur de recherche émérite au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous étiez l'invité du 5-7. Il est 6h27.